France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag les informés. Alors une émission un peu spéciale ce soir puisqu'il y en a deux pour le prix d'une. De 20h à 20h30, on débriefe l'actualité avec des gens de qualité hein, qui ont suivi toute la journée comme des prolétaires l'actualité sur le fil AFP. Et à partir de 20h30, une demi-heure spéciale Star Wars. Alors oui, l'épisode 7 de la saga sort le 16 décembre, mais nous prenons de l'avance et célébrons la chose le 6 novembre. Alors pourquoi le 6 novembre précisément? Eh bien, réponse à 20h30. Ce sens du teasing est presque indécent. Et eux, ils ont la force de l'actualité avec eux. Et les informés de France Info reçoivent ce soir Virginie Le Petit de Courrier International. Bonsoir.
Bonsoir.
Le restaurateur Xavier Delamure. Bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle votre livre Et si on se mettait enfin à table chez Calman Lévy et Éric Decouty de Marianne. Bonsoir.
Bonsoir.
Les informés de France Info, il est l'heure de notre premier débat. La mode du vintage touche tous les domaines. La musique, les vêtements, les coiffures et même dans un pays à près de 4 millions de chômeurs, quand on a un emploi, on entend dire « waouh, c'est trop vintage ». Au mois de décembre, le vintage concernera également les bordures de la France avec le retour du douanier. Et oui, alors pour les plus jeunes, le douanier n'est pas une invention de Danny Boone pour son film « Rien à déclarer ». Non, il a longtemps existé, et existe encore d'ailleurs. Ce matin, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a annoncé le rétablissement des contrôles de douane aux frontières pendant le déroulement de la COP21, un mois durant lequel les accords de Schengen seront suspendus en France pour faire face à la menace terroriste des différents groupes radicaux. Une mesure donc assumée par le ministre de l'Intérieur et appréciée par Nicolas Comte. Il est secrétaire général adjoint du CGP Police Force Ouvrière.
Il est extrêmement important justement dans le cadre de cette COP21, en tout cas pour la sécurité de cette COP21, que mes collègues puissent effectivement contrôler un certain nombre de personnes qui viendront en France à cette occasion. Ça veut dire des policiers davantage mobilisés et des policiers bien placés sur les frontières pour établir un certain nombre de contrôles. Hein. C'est plusieurs milliers de policiers. C'est assez considérable.
Voilà, Nicolas Comte du syndicat de police CGP Force Ouvrière. Alors, est-ce que c'est une bonne mesure, Éric Decouty?
Il faut d'abord pas découvrir la lune. Hein. C'est pas la première fois qu'on rétablit le contrôle aux frontières. Il y a eu à chaque G20, alors ça dure moins longtemps, à chaque G20, à chaque sommet international, il y a le rétablissement des frontières. Pendant l'Euro 2012, je crois, il y a eu pendant plusieurs semaines le rétablissement du contrôle aux frontières. C'est quelque chose qui est permis par les accords, c'est quelque chose qui est relativement classique, ordinaire. Il n'y a pas de décision exceptionnelle. Alors ça, c'est la première chose. Donc c'est finalement une application des accords, on sait bien. Et puis il y a des questions de sécurité. On est en vigilance terroriste maximale. Donc il y a quelque chose qui me semble cohérent. Et puis, il y a ce qui se sous-tend derrière. C'est est-ce que les accords de Schengen dont on parle, on l'a vu avec la vague migratoire, de facto, ils sont pas, sinon en train de mourir, même déjà morts. Donc c'est ça la vraie question.
C'est ça qu'on peut se poser, Virginie Petit. Est-ce que c'est vrai que depuis le fin août, on se pose beaucoup la question sur Schengen? Ça revient dans toutes les discussions Schengen à propos des migrants, ça donne du grain à moudre justement à ceux qui voudraient qu'il n'y ait plus Schengen?
Il y a déjà eu en fait des presses, et notamment la presse hongroise, quand la Hongrie a fermé ses frontières, qui l'ont dit, hein, Schengen c'est mort, et c'est mort en Hongrie. Donc là en ce moment, effectivement, à cette occasion-là, c'est pas si spectaculaire, mais après que l'Allemagne a fermé ses frontières, après que la Hongrie a fermé ses frontières, après que tout le monde réclame à nouveau des contrôles, oui, ça prend une autre dimension. Et il y a des pays, effectivement, et notamment dans l'Est de l'Europe, qui sont assez favorables à une fermeture des frontières, parce qu'ils ont envie de contrôler qui rentre chez eux.
Xavier de Namur, alors certains disent, voilà, on protège les puissants, et puis après le 13 décembre, c'est terminé?
On peut penser ça. Faut quand même relativiser les choses. C'est-à-dire que faut savoir quand même qu'ils vont pas installer des barrières aux frontières. Oui. On va bloquer tout le monde parce que sinon ça va être le bordel royal. Parce que c'est pas possible. Parce que déjà on n'a pas le personnel. Et puis vous imaginez bien les frontaliers qui vont bosser en Suisse en Suisse d'ailleurs c'est pas partie de Schengen, mais qui vont bosser en Belgique ou Luxembourg, enfin tout. Ça serait l'enfer. Donc il y a un gros effet d'annonce là derrière. Alors effectivement ils vont vouloir un peu filtrer, regarder ce qui se passe. Mais en réalité la vraie sécurité, c'est celle qui est pas visible. La vraie sécurité aux frontières, etc., où ça se passe même à l'extérieur par les services de sécurité français. Et eux, on les voit pas. Donc c'est ça qui va. Moi, aujourd'hui, quand j'entends parler de ça, ça me fait un peu sourire.
Oui, Virginie Petit?
Oui, et puis la vraie sécurité, elle sera là où se déroule la COP 21, au Bourget, où il y a des zones qui sont concentriques. Donc la zone où vont se dérouler tous les échanges des chefs d'État, et puis la zone, la fameuse zone bleue, cette zone bleue et la zone complètement interne qui seront contrôlées par les Nations Unies, et pas du tout par la sécurité française. Donc il y a déjà, il y a des espèces de frontières à l'intérieur du Bourget déjà. Donc c'est là que ça va se concentrer toutes les forces de sécurité.
Il y a un effet d'annonce, oui, en fait. Il y a une annonce symbolique qui est celle de la sécurité contre les frontières. Et puis il y a, c'est pas tout à fait une annonce, mais est-ce que c'est pas finalement les certains nombres d'États européens qui actent le fait qu'aujourd'hui, Schengen, comme vous aviez raison, il y a des murs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Europe, il y a des murs. À l'est de l'Europe, il y a des murs qui ont été construits. Et bien, est-ce qu'aujourd'hui, l'État français et finalement les Européens ne sont pas train d'acter de donner acte de décès de
Schengen.
La grande différence, c'est que effectivement, quand on va en Angleterre, faut prendre le tunnel, c'est compliqué. Mais la France, c'est quand même une grande passoire. C'est-à-dire qu'on veut, on arrive d'Espagne, on arrive d'Italie, on arrive de partout, on peut rentrer sans problème.
Passoire. Et quand on est à Calais. À Calais, il y a une passoire, il y a un mur à Calais, parce qu'on parle des murs de l'Est. Oui. Calais, c'est un mur aujourd'hui. On voit bien qu'il y a d'un certain côté du mur, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui ont la gale. Il y a un mur chez nous. Il y a un mur chez nous, donc.
Oui, mais c'est un mur pour les Anglais. C'est le mur pour les Anglais.
Oui, c'est le mur pour les Anglais. Enfin, c'est qu'on accepte et en tous les cas, on fonctionne avec ce mur-là.
Virginie Petit.
Oui, chez nous, en Espagne. Enfin, effectivement, c'est quasiment tous les pays européens maintenant. Alors, ceux qui sont à l'intérieur même de l'Europe et puis ceux qui sont aux frontières de l'espace Schengen, c'est ça, on construit des murs physiques.
Alors aujourd'hui, ce mot Schengen, de la part de Bernard Cazeneuve, arrive, c'est assez étonnant et c'est assez révélateur aussi, en une du journal Le Monde aujourd'hui, c'est un appel pour Schengen de Jacques Delors. Alors Jacques Delors a été quand même président de la Commission européenne. Éric de Couty, est-ce que c'est finalement un symbole aussi? C'est, alors je dirais pas de gauche, mais est-ce que c'est un changement d'époque? C'est finalement Jacques Delors aujourd'hui, cette référence européenne, est-ce qu'il est encore finalement dans notre...
Oui, je pense qu'on fait appel. C'est comme souvent, quand on a quelque chose qui est un corps extrêmement malade, quand on a l'Europe aujourd'hui, elle est moribonde. Elle est moribonde. On le voit presque tous les jours. Eh bien, on appelle aux références vraiment passées. C'est pas vrai, mais Jacques Delors. On fait appel à l'histoire. C'est comme si c'était le recours aux vieux sages qui pouvaient nous donner la bonne parole. Je trouve que c'est pas bon signe. Non pas que le propos de Jacques Delors ne soit pas intéressant, évidemment, mais que c'est pas bon signe quand on fait appel quasiment aux voix célestes pour essayer de ressusciter l'Europe.
Xavier de Namur, quand vous entendez ça, justement, alors un vieux sage...
Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Éric de Couty, parce que je pense pas que l'Europe soit si moribonde que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des problèmes en Europe, mais je crois que les Européens, ceux qui sont les citoyens européens, je crois que la grande majorité sont quand même très heureux d'être européens et d'être ensemble. Donc, qu'il y ait des problématiques en Europe, c'est clair, qu'il y a des problématiques sociales d'ailleurs, principalement, et aujourd'hui on met beaucoup sur les migrants parce qu'on voit bien que c'est un problème à gérer à l'Europe, mais je pense qu'une fois qu'on les aura intégrés, l'Europe va s'en remettre et va continuer, donc je pense pas que l'Europe va s'arrêter demain.
Éric de Couty.
Nous ne méprenons pas, c'est pas l'Europe, un idéal européen qui est en cause, le fait même que les Européens soient Européens, c'est aujourd'hui cette Europe politique, cette construction européenne. Il y a les migrants, mais il n'y a pas les migrants, on l'a vu avec la Grèce aujourd'hui. La Grèce, on a un certain nombre on est forcé de constater que dans cette construction européenne aujourd'hui, politique, économique, aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce qui ne veut pas dire que les citoyens des différents pays ne sont pas désireux d'Europe, mais pas de celle-là.
Virginie Petit, c'est vrai que c'est une année assez compliquée pour l'Europe, là, on l'a vu. On a l'impression que chaque crise, c'est des grosses crises entre économiques ou la crise migratoire. Aujourd'hui, on a l'impression que les institutions ne tiennent pas, ça craque.
Ça craque de partout, effectivement. Elle est absente, en fait, elle est absente du champ diplomatique. Elle n'existe absolument pas sur la scène internationale en tant que force, ni militaire, ni diplomatique, ni rien. Chaque pays parle par sa propre voix. Non, l'Europe est, oui, effectivement en crise, et c'est une crise donc financière, monétaire. Oui, il y a énormément de difficultés, donc on peut se poser des questions légitimes. Et c'est pas effectivement un sentiment d'appartenance à l'Europe, c'est ce que vous disiez, c'est pas ça le problème du tout. Le problème, c'est si on veut construire quelque chose, c'est la fiscalité, la politique, la diplomatie, et ça marche pas.
Éric de Couty.
Retrouver aussi du désir, de l'envie d'Europe. L'Europe aujourd'hui ne fait pas envie, et je crois que c'est aussi pour ça qu'il y a un repli, on le voit partout en France, mais aussi dans les centres de pays européens, on voit ce repli, ce qu'on parle, le repli identitaire, le repli national, parce que aujourd'hui, l'Europe telle qu'elle est construite, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'envie, mais telle telle qu'on nous la présente, eh ben, il n'y a pas de désir, on est obligé de le constater.
Et Virginie Petit.
Et moi, enfin, j'ai été très choquée au mois de septembre quand on a vu dans la presse tchèque un commentateur tchèque qui, pour que l'Europe soit aidée, réclamait de l'aide de l'OTAN. C'est quand même un aveu d'impuissance totale, totale.
En fait, la seule chose qui marche en Europe, c'est l'Eurovision, en fait, on a l'impression, et c'est ça qui est terrible, en fait, finalement. C'est
et Erasmus. Même,
et Erasmus, voilà. Xavier Demeuf, pour vous, l'Europe, ça vous fait encore rêver? Ou pas, ou c'est un projet finalement.
Moi, je pense que c'est comme la manière dont notre pays est géré. C'est un peu une catastrophe. Mais pourtant, on est un pays, on a une nation. Et après, il y a la grande nation, je pourrais dire, européenne. Mais pour ça, il faut effectivement que, ceux qui dirigent, ils dirigent dans l'intérêt général. Et c'est pas le cas pour l'instant. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on a quand même une Europe qui est quand même dirigée par des lobbies. La plupart du temps, on voit ce qui se passe à Bruxelles. C'est ça la grande catastrophe. Et donc, les citoyens s'en sentent absents de ça. Et c'est vrai qu'on s'en sent de la politique même nationale.
Hein. Oui, pour terminer, Eric Dupont-Aignan.
C'est une Europe qui n'a pas, la construction européenne telle qu'elle est aujourd'hui, c'est une Europe qui n'a pas voulu choisir. C'est-à-dire qu'on est entre les deux. On est entre une Europe qui se veut de plus en plus large et puis des États qui sont de plus en plus forts. Je crois que si on avait fait le choix d'une Europe, peut-être même d'une Europe fédérale, peut-être qu'on n'en serait pas là. Aujourd'hui, on fait une Europe qui est mi-chèvre, mi-chou, qui est à la fois faussement européenne et vraiment nationale.
20h-21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Virginie Le Petit de Courrier International, Éric Decouty de Marianne et le restaurateur Xavier Denamure qui nous a apporté des fruits d'ailleurs. Merci Xavier, vous prenez soin de notre santé, hein, c'est très bien.
J'ai pris des kiwis du Lot-et-Garonne et non pas de Nouvelle-Zélande parce que je pense que les kiwis doivent venir plutôt de France.
Tout à fait, voilà.
C'est de Nouvelle-Zélande, juste pour informer les gens, ils ont été cueillis au mois de mai-juin, donc on voit bien que tout ce qu'on trouve dans la grande distribution, c'est un peu la cata.
Allez, s'il y a une chose que n'aime pas Manuel Valls, c'est qu'on dise de lui qu'il n'est pas autoritaire. Ça l'exaspère, mais au plus haut point. Il paraît même quand ses amis lui disent « Allez Manuel, sois cool », il retient sa respiration et frappe du pied très fort. Lui, l'ancien ministre de l'Intérieur, lui qui aime transgresser avec les dogmes de sa famille politique, refuse qu'on le traite de laxiste. Et ça, en ce moment, c'est un peu l'argument principal de la droite et de l'extrême droite contre le gouvernement, en référence notamment à Air France, aux fusillades mortelles à Marseille ou au règlement de compte à Clermont-Ferrand. Hier, sur Facebook, le Premier ministre a publié une tribune intitulée « L'autorité, une exigence, une éthique, des actes ». Alors, il parle de crise d'autorité dans le pays, mais se défend de ne rien faire et accuse ceux qui le critiquent de dérive d'autoritarisme par l'agilité des mots et la facilité des postures. Nicolas Sarkozy, qui avait parlé d'affaiblissement de l'État cette semaine, appréciera. Cet après-midi, Manuel Valls était à Moiran, là où il y a deux semaines des violences impliquant les gens du voyage avaient dégénéré. Et cette fois-ci, le Premier ministre s'est voulu intransigeant.
Il y aura des interpellations et des sanctions à la hauteur de la violence que Moiran, Voreppe et ses habitants ont connue. C'est au procureur qui agit en toute indépendance de s'exprimer et de conduire cette enquête. Mais personne ne peut douter de l'engagement de l'État et de la justice pour apporter une réponse légitime.
Voilà, Manuel Valls cet après-midi à Moiran. Alors, Manuel Valls, il tente de retrouver son marqueur politique, c'est l'autorité, Éric Decouty, c'est ça?
Là. Oui, vous avez raison. Manuel Valls, il a fondé une partie de son image et donc de sa stratégie politique sur cette idée de l'homme autoritaire. L'homme qui fait respecter la loi, le républicain plus que les autres. Et donc, c'est dans cette séquence-là, on voit toute sa démarche, en fait, qui est mise à mal. Il y a des signes, quand même, de cet affaiblissement et de ce recul dont il a parlé de la République. Parce qu'il y a Moiran, mais il y a aussi l'affaire de l'autoroute A1. Où on a dit où les citoyens ils voient bien qu'il y a des actes et les interpellations. Faut savoir que depuis le mois d'août, il y a eu aucune conséquence judiciaire encore. Donc il y a une série de tout n'est pas de la faute de Manuel Valls. Il y a plein d'explications possibles. Il y a des moyens policiers de moins en moins importants parce qu'on l'a déplacé sur le terrorisme. En tous les cas, Manuel Valls, il a besoin de restaurer son autorité par des coups de menton.
C'est ça. Alors quand l'opposition justement mélange justement Air France, règlement de compte à Marseille, est-ce que ça a à voir? Est-ce que c'est le même genre de violence, Xavier de Namur?
Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire encore une fois, Manuel Valls, il fait un peu quelque part du Sarkozy. C'est-à-dire que traiter les syndicalistes d'Air France de voyous, moi je trouve ça surréaliste. On peut pas les mettre sur le même plan. Et ensuite, je tiens quand même à rappeler, Manuel Valls a écrit sur Facebook ce texte dont vous avez cité une partie. Il fait appel entre autres à des références comme Anna Arendt, très bien, ou Hobbes. Hobbes, je pense pas qu'il y ait beaucoup de citoyens qui lisent le philosophe du XVIIe siècle, mais pour lui, je rappelle quand même que Hobbes, pour lui, c'était la monarchie qu'il souhaitait, qu'il pensait que c'était le seul moyen d'avoir l'autorité sur les citoyens. Alors est-ce que, pour reprendre, c'était Geoffroy qui se foutait de la gueule à un moment de Nicolas Sarkozy quand il avait dit qu'on était dans une république monarchique, est-ce que Valls fait pas un peu du Sarkozy en allant en plus sur le terrain prendre un épiphénomène et dire voilà, on va vous parler de sécurité, d'autorité de l'État, et pendant ce temps-là, les vrais problèmes, ce qui fait la vraie souffrance de ce pays, c'est pas ça, c'est la souffrance sociale, c'est la souffrance des gens qui c'est ça qui les choque et qui sont dans la misère. Et je finis là-dessus, c'est que moi je vois bien des à Grenoble, j'ai rencontré des chefs d'entreprise il y a pas longtemps, ils sont à deux doigts de péter un câble, et que c'est
pourquoi
pas, et ben parce que ils en ont marre, parce que alors c'est des petites entreprises, ils sont assujettis à des je rappelle encore quand même à toutes sortes de dispositifs fiscaux, sociaux, etc., qui sont très chers, alors que de l'autre côté, dans le papier de Monsieur Valls, il parle des 40 milliards qu'il donne à travers entre autres le pacte de responsabilité ou le CSE, ça va au grand groupe, ça va pas aux petites boîtes.
On va venir, mais Virginie Petit, on voit bien que Emmanuel Valls répond directement à Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy avait dit cette semaine dans une interview au Parisien qu'il n'y avait plus d'autorité de l'État, tout simplement, en France, avec le sens de la mesure. Mais ça veut dire aujourd'hui qu'il y a aussi des élections régionales. Votre avis, c'est aussi
évidemment,
pour ça.
Évidemment, s'il se déplace en région, de toute façon, à Moirans ou ailleurs, c'est évidemment dans le cadre des élections régionales. Et puis, il écoute les sondages. Hein. Apparemment, les Français réclament plus des chefs d'État plus autoritaires, etc. Bon, bah, il écoute ça. Oui, enfin, je sais pas. C'est en tout cas cette image-là, elle fonctionne à l'étranger parce que il est vu comme l'homme fort du PS. Il est vu, je crois que c'est le quotidien suisse Le Temps qui l'a qualifié de premier ministre président. Donc ça c'était au moment en fait des universités d'été du PS. Donc ça fonctionne. Mais effectivement, il est en campagne.
Éric Decouty.
Moi, je voudrais qu'il y a dire quelque chose. Moi, je partage assez ce que disent mes camarades. Mais Nicolas Sarkozy, dans la séquence, quand il parle d'affaiblissement de l'autorité de l'État, la semaine dernière, il va à Moscou. Il va à Moscou défendre une autre diplomatie que celle de la France, du gouvernement. Dans les principes, c'est une première quasiment. Et dans l'interview suivante du Parisien et dans ses déclarations, qu'est-ce qu'il fait? Il passe en longueur d'interview en train de dire la justice ne fonctionne pas, cette justice. Si ça, c'est pas un affaiblissement de l'autorité de l'État dans deux séquences saisissante de ces dernières semaines, je ne vois pas ce que c'est d'autre. Franchement, donc, la responsabilité de Nicolas Sarkozy en la matière, elle est assez considérable.
Virginie Petit.
Il y a une autre chose qui me choque, c'est qu'en fait, on dit que l'autorité de l'État est remise en cause et on confond le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Enfin, et donc la justice. Et le problème, c'est que c'est pas le même pouvoir. Et ensuite, le temps de la justice, il est quand même assez long. Une comparution immédiate, si vous allez assister aux audiences, les gens, certains sont détenus depuis un mois. On appelle toujours ça comparution immédiate. Cela dit, ça prend du temps avant que la justice se fasse. Donc, Sarkozy, quand il critique, joue là-dessus aussi.
20h-21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on parle donc de la visite de Manuel Valls à Moirans, deux semaines après les violences entre Jean du Voyage et la police. Pour vous, Xavier de Namur, c'était normal, bien qu'il y aille, Manuel Valls, à Moirans, deux semaines après. Alors, juste préciser que c'était par rapport à l'agenda, puisqu'il y a eu l'accident de car dans le sud-ouest, il n'avait pas pu s'y rendre auparavant.
Alors, il se rend deux semaines après à Moirans, on se rappelle. Moi, je fais toujours le parallèle. Vous voyez, Sarkozy, quand il y avait eu, en 2008, quelqu'un qui avait été poignardé par un schizophrène, et Sarkozy était descendu là-bas en disant, il faut tous les enfermer et tout. Bon, je rappelle quand même que des schizophrènes qui tuent des gens dans la rue, il y en a peut-être un ou deux par an. Des gens normaux qui tuent des gens normaux dans la rue, il y en a des centaines tous les ans. Donc, on devrait enfermer les gens normaux. Donc, cette idée de parler de sécurité à chaque fois, au lieu de parler des vrais problèmes, des vrais enjeux de société. Encore, je vous dis, ce qui pend au nez, c'est pas une petite émeute quelque part. Ce qui pend au nez dans ce pays, c'est quelque chose qui est sourd derrière. Vous savez, je lisais un livre de Bérangère Le Petit qui vient de sortir, Séjour en France. Elle a passé trois semaines chez un volailler, chez Doux. C'est cette misère sociale où les gens n'ont pas de perspective, n'ont pas de vision. C'est ça qui est sourd derrière, et c'est ça, cette violence que les Français ressentent surtout.
Est-ce que ça... Eric Decouty.
Oui, moi, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que, alors, d'une part, Nicolas Sarkozy,
un beau lapsus.
Manuel Valls, comme Nicolas Sarkozy. On est dans le rien en fait. Mais par ailleurs, c'est vrai qu'il y a une réalité, une violence sociale. Mais je pense qu'on aurait tort. Et vous parlez de vos fruits qui venaient de Lot-et-Garonne. On aurait tort, nous, à Paris, de minimiser le sentiment et la réalité des problèmes de sécurité, de conscience. Je pense que les gens, j'aime pas employer le mot les gens parce que ça veut pas dire grand chose, mais il y a une réalité sociale, une violence sociale, elle est réelle, évidemment. Elle est sans doute très importante, mais il y a aussi à droite, à gauche, dans plein d'endroits, des gens qui ont un sentiment peut-être qu'il est réel, un ressenti. C'est passé un peu inaperçu, je crois, à Montaigu, il y a eu des violences dans une gare. Il y a ces petites choses qu'on aurait tort de minimiser parce qu'il y a plein de choses. Il y a des gens, notamment au Front National, qui se servent de ça pour prospérer. Et je pense que Manuel Valls ou n'importe les Républicains ont un devoir aussi de ne pas laisser ce sentiment prospérer, d'apporter des réponses, pas seulement en allant sur le terrain, en donnant des coups de menton, mais aussi en agissant, peut-être plus prosaïquement, par des forces de police, etc.
Virginie Petit ?
Oui, là, c'est ce que fait Manuel Valls, c'est pas une réponse, là, pour le coup, on est bien d'accord. C'est effectivement de la com' ou de la pensée positive, enfin, je sais pas, mais c'est absolument pas une réponse concrète. C'est du vent.
Oui, c'est du vent. Justement, Éric de Coutil.
Oui, vous savez que les moyens policiers, quand on discute avec des policiers de réalité, les moyens, notamment pour les BAC, les brigades anti-criminalité, il y a eu un déplacement des moyens pour la lutte contre le terrorisme qui ont largement affaibli police de proximité, qui existe. Donc, il y a aussi il y a une réalité technique, policière, réalité de terrain qui n'est pas de l'esbrouf, mais auquel il faudrait trouver des réponses. C'est ça la vraie réponse.
Justement, qu'est-ce que vous en pensez du fait de la proposition de certains républicains de mixer, on va dire, le ministère de la Justice et de l'Intérieur?
Non, mais écoutez, c'est
Xavier Bertrand et Christian Estrosi.
J'ai l'impression, je vais faire le vieux journaliste, mais que j'entends ça depuis des lunes, on en parle ça. Ce serait une logique. Ce serait une logique, mais ça veut dire qu'il faut repenser tout notre système judiciaire. C'est pas simplement de rapprocher les deux, parce que c'est tout, on va pas rentrer dans le détail, mais tout le fonctionnement des deux. Mais dans le détail, c'est qu'aujourd'hui, sur une enquête de police, une enquête judiciaire, il y a une double commande. Il y a des policiers qui dépendent de la hiérarchie policière et des juges qui dépendent de la hiérarchie judiciaire. C'est vrai que c'est très curieux.
Mais Virginie Petit, sur cette proposition, il y a un peu de démagogie dedans parce qu'on sait comme ça, on se dit ça va être vite réglé, mais on sait qu'aujourd'hui il y a un peu de mal à travailler aussi entre la justice et l'intérieur.
Oui, il y a un peu de mal à travailler entre la justice et l'intérieur, mais aussi parce qu'on n'est pas dans un système accusatoire. Enfin, c'est le problème, c'est ça, c'est exactement ce que vous disiez, c'est que ça veut dire qu'il faut tout réformer. Oui. Tout réformer, tout revoir. Et est-ce qu'on a vraiment envie de ça? Je ne sais pas. Hein. Moi, j'en suis pas certaine.
La droite, à travers Nicolas Sarkozy, je ne veux pas monopoliser la parole, à travers Nicolas Sarkozy, a un problème avec la justice dans ce cas. Elle a d'indépendant. Et c'est ça que ça cache. Et ça, c'est pas nouveau. Hein, ça date. Traditionnellement, on l'a vu cette semaine. Elle a un problème avec l'indépendance des juges d'instruction. C'est ça la réalité de la droite.
C'est-à-dire la justice comme un outil. Donc bon.
Xavier Delamure, on le voit aussi. On parlait de coup de com à propos de Manuel Valls, donc à Moirans. Est-ce que vous avez l'impression aussi qu'il y va parce qu'il a un peu de mal à exister aujourd'hui entre François Hollande et Emmanuel Macron. On a l'impression qu'il disparaît un petit peu, Manuel Valls.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on veut, tout à l'heure, Emmanuel Macron, quand il visite une usine, c'est pour exister, effectivement. Alors là, les journalistes adorent quand ils vont ils suivent et tout, c'est génial. Parce que les médias ont un rôle énorme à jouer là-dedans. Enfin, d'ailleurs, qui est une catastrophe à mon sens. Mais ce qu'il faut voir, c'est que Monsieur Hollande, c'est pareil, le coup de Lucette la dernière fois, on a vu le montage. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être dans une république pré-soviétique. C'est-à-dire qu'on nous montre des trucs et tout. C'est pas ça la politique. C'est-à-dire que ça c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faut demain qu'ils prennent des mesures, qu'ils fassent en sorte que ils résoudent réellement les problèmes. Je rappelais quand même, ils se font de la com en disant on a 20 000 chômeurs de moins au mois d'octobre, sauf qu'il y en a 700 000 de plus ou 800 000 de plus depuis qu'ils sont arrivés. Donc c'est ça le problème, que leur politique publique en fiscale vers les entreprises, là dans Valls, il disait dans son papier, parce que moi la com ça m'intéresse pas trop, mais dans son papier, il disait sur Facebook, en disant on va vers 13 millions de foyers fiscaux qui vont payer moins d'impôts. Mais qu'est-ce que c'est? On a l'impression qu'ils touchent des miettes par rapport aux 110 milliards qui vont vers les entreprises chaque année et qui ont des incidences colossales sur le social et qui font en sorte qu'il y a des boîtes qui prennent plein de thunes et il y en a d'autres qui souffrent.
Allez, c'est là-dessus qu'on doit vous laisser, Xavier Denamur, Éric de Coutil. Voilà, ça se termine tôt soir. Hein, désolé. La une de Marianne d'ailleurs cette semaine, Éric de Coutil.
Alors, deux sujets. Oui. Ce que nous coûtent les banquiers, une vraie enquête qui va dans votre sens. Et le deuxième sujet, c'est aujourd'hui la chasse aux laïcs, aux vrais laïcs.
Ça, c'est à retrouver dans Marianne cette semaine. Xavier Denamur, je rappelle votre livre. Et si on se mettait enfin à table chez Kalman Levy, merci beaucoup d'être passé ce soir aux informés de France Info.
En fait, le vrai bon truc, ce serait la guerre des étoiles du feu. Alors, nous, on est URL Skywalker et Princesse Web. On est frères et sœurs, mais on le sait pas, tu vois.
Et Raon ?
Moi, je suis Iguane Solo. Je traverse la chaîne de l'évolution plus vite que la lumière grâce à l'Iguanodon Millennium.
Ouais, et moi, je suis Chewbacca, le singe hyper puissant capable d'arracher la jambe de n'importe quel Homo Erectus d'un seul coup de pouce préhenseur.
Werther, c'est pas crédible. On va te trouver autre chose, hein.
C'est trop nul comme personnage.
Mais non, Pierre 2D2, c'est un rôle vachement important, il arrête pas de sauver la vie à tout le monde.
Voilà un extrait de Silex in the City, la guerre des étoiles du feu.
C'est la guerre des étoiles du feu,
donc j'imagine que ça doit être assez amusant à écrire quand même, parce que là il y a toutes les références.
Bien sûr, l'univers est régi par la roche. Donc
C'est ça. Virginie Petit, on a parlé de mythe mondial, et justement alors dans la presse internationale, j'imagine que c'est comme en France, 10 fois pire, parce que alors ce soir il y a une nouvelle bande-annonce qui est sortie au Japon, avec des nouvelles images justement qu'on peut voir de Star Wars dans cette bande-annonce. Pourquoi le Japon d'ailleurs, je crois que c'est assez particulier là pour la sortie de Star Wars, ils ont carrément tout fait, ils sont vraiment accros à fond.
Ils sont accros à fond, et puis il y a aussi tout l'aspect business. Donc il y a une compagnie aérienne japonaise qui s'appelle ANA, qui a repeint ses avions aux couleurs de Star Wars, en espérant quand même attirer plutôt les voyageurs américains, il faut être assez conscient de ça. Donc oui, effectivement, le Japon a droit à des exclusivités, ils aiment bien tout ce qui peut être un peu exclusif. Cela dit, ça n'a pas détrôné les mythes spécifiques. Ouais. Astro reste quand même le mythe fondateur, Astro le petit robot, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, ça reste quand même le mythe fondateur au Japon. Mais oui, Star Wars, pour les raisons qui ont été dites précédemment, ça s'est déversé et ça a perfusé absolument partout.
Mathieu Andréani.
Oui, il y a les samouraïs aussi japonais en fait. C'est-à-dire que George Lucas s'est inspiré clairement des samouraïs japonais pour faire Dark Vador. L'armure de Dark Vador vient de là. Les chevaliers Jedi, la philosophie bouddhiste, taoïste, etc. vient de là. Donc il y a des vraies références quand même à la culture japonaise.
Et réciproquement, quelques deux ans après Star Wars, le Japon a produit cette immense série qui s'appelait Sankukai. Je ne sais pas si
bien
ça parle.
Oui, mais
voilà,
bien sûr.
Et qui est clairement, qui reprend à nouveau, qui reprend à son compte certains éléments de Star Wars et notamment les batailles spatiales. Et c'est une espèce de jeu de miroir qui est assez fascinant.
Gilbert Rich, on entendait avec Jules, on a l'impression que pour un philosophe, des phrases comme je suis ton père ou que la force soit avec toi, c'est une gourmandise incroyable, non?
Oui, voilà.
C'est fantasmagorique, non?
Oui, fantasmagorique.
Si, autant le dire.
Moi, j'ai préféré, j'ai un peu développé dans le bouquin Personne par la guerre ne devient grand, parce que la phrase m'avait étonné à l'époque et puis finalement, je me suis rendu compte qu'elle était assez discutable. Ouais. Et assez fausse, mais effectivement, alors je suis ton père, c'est un peu plus psychanalytique,
oui, hein,
tout le monde a compris, Oedipe, freudien, voilà, et puis que la force soit avec toi, effectivement, ça nous emmène sur les distinctions entre Star Wars et ce que certains voudraient rattacher à une pensée occidentale ou judéo-chrétienne, comme on veut, pour se rendre compte qu'effectivement, on est plutôt du côté de l'Orient, hein. On parlait du Japon, de l'Orient en général, la force, c'est plutôt, ça se rapproche plutôt du Tao, c'est pas un dieu personnel, philosophiquement, ça a plein de conséquences, on n'aura pas le temps de le dire là en 5 minutes, mais effectivement, c'est des phrases qui permettent de creuser un peu, de découvrir un peu une autre philosophie que la philosophie occidentale.
20h-21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, donc spécial Star Wars, à l'occasion de la sortie du livre Génération Jedi, d'ailleurs, vous pouvez retrouver tous les samedis, pardon, avec Génération Jedi sur France Info, c'est très difficile à dire. Donc avec Baptiste Schweitzer et Mathieu Mandoloni, mais également autour de la table Jules, donc pour La Planète des Singes volume 2 qui sort vendredi prochain, vendredi 13, le philosophe Gilles Verviche pour La Philo Contre-Attaque et Virginie Petit de Courrier International. Jules, est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu Star Wars?
Oui, je l'ai vu au cinéma, je me suis pris pour un Wookiee ensuite tout le reste de ma vie, et ça a développé un système pileux complètement hors norme dans mon école.
C'est vrai.
C'est ça. Je me demandais depuis tout à l'heure pourquoi ça me chatouillait du côté gauche.
Attention, j'arrache les bras comme les vrais Wookiees.
Alors, en ce moment, il y a une vraie effervescence autour de Star Wars, de la prochaine sortie, mais en 1977, alors ce film sortait comme ça aux États-Unis, et ensuite, là, on s'est dit en France, quand on l'a accueilli, on se demandait bien ce que c'était comme objet, et voilà comment on en parlait à l'époque dans cette grande émission chez nos amis de France Inter, Le Masque et la Plume, assez sympathique.
Il faut voir comment le public américain, qui fait un succès énorme à la guerre des étoiles, c'est un des plus grands
alors,
succès
la cérémonie
depuis l'Exorciste, voit le film. Et quel est le public? Le public a généralement n'a pas plus de 20 ans. Le gros du public, ce sont des adolescents qui voient le film avec leur joint, leur cigarette de marijuana en poche. Car dans la plupart des grandes salles américaines, il n'y a plus tellement de problèmes maintenant. Les gens peuvent tirer leur cigarette de marijuana et fumer. Et ils voient le film de cette façon-là. C'est un film qui joue uniquement sur les effets visuels. C'est absolument prodigieux.
Et voilà, en 1977, comment on voyait Le Masque à Plume? Oui, Virginie Petit, vous vouliez dire?
Oui, sur le film qui joue uniquement sur les effets visuels, c'est totalement faux. Il paraît que
70,
lors des...
Non, 77,
oui,
hein,
oui, alors. Mais il paraît que lors des premières projections, la musique de John Williams n'était pas montée sur le film et que les gens trouvaient que ça n'avait aucun sens sans la musique. C'est la musique qui vient rythmer et narrer le film.
Baptiste Chauzin.
C'est assez juste. Hein. On a rencontré alors pour nos chroniques plusieurs personnes, notamment des personnes qui s'occupent du son et qui disaient, et on se l'est imaginé effectivement, effectivement le film sans la musique ni sans les effets spéciaux de Ben Burtt, le sabre laser, voum voum, tout le monde sait ce que c'est, R2-D2. La respiration de Dark Vador, R2-D2, etc. Le cri de Chewbacca, ça n'aurait aucun sens. Donc il y a eu ce côté assez génial. Et de l'autre côté, on a rencontré Robert Blalack, qui est un des fondateurs d'ILM, vous savez, c'est la société qui a fait les effets spéciaux, et qui nous a dit, je suis allé voir le film la première fois, la première semaine Chinese de la sortie Theater, au Chinese Theater de Los Angeles, et les gens, dès qu'il y a eu le premier plan de l'épisode 4 que lui avait tourné, il nous racontait l'horreur de ce plan, peu importe, mais il nous racontait ça, et il nous disait, mais les gens hurlaient, c'était du jamais vu, ouais. Ces effets spéciaux étaient du jamais vu.
Jules ?
Moi j'ai pensé, en fait, je me suis toujours figuré un petit peu le destin et la vie comme une espèce de grand truc plat qui se dirigeait depuis l'extérieur vers moi en s'élargissant. À cause du texte du générique.
Une chose, alors Star Wars, c'est un empire qui pèse 27 milliards de dollars et qui appartient à Disney.
Pour les 6 premiers films, maintenant, multiplié par 2 pour les 5 prochaines années,
Jean-Marc. Et qui appartient à Disney parce que ça a été racheté donc à George Lucas pour 4 milliards de dollars. C'est des chiffres hallucinants, mais vous, dans votre livre, justement, à un moment, quand vous allez à cette convention à Los Angeles, est-ce que tous ces gens qui sont déguisés, qui aiment Star Wars, est-ce qu'ils ont conscience de ça, de cet empire financier ou pas?
Ben oui, ils sont pas naïfs. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, ils viennent et ils déboursent des centaines, voire des milliers de dollars pour venir participer à 4 jours de convention. Ils viennent acheter des figurines, des Lego, éditions spéciales. Enfin, ils ont conscience d'être là-dedans et en même temps, c'est une passion pour eux. C'est-à-dire, il y en a qui nous disaient, c'est comme collectionner des timbres pour d'autres. Ils vont dépenser des fortunes là-dedans ou acheter des vieux livres. Ben, nous, c'est Star Wars. Voilà, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment de problème.
Jules?
Oui, j'ai vu là cette semaine ce type qui est en train de mourir, là, qui demande à voir le film.
Qui l'a vu.
Parce qu'il paraît que Manuel Valls, avant les régionales aussi, a demandé ça.
Malheureusement, bon, je ne sais pas si les gains de cause. Gilbert Vich, on voit ce phénomène. Ce qui est étonnant, c'est que Star Wars, ça a provoqué ça. C'est la culture qu'on dit aujourd'hui geek. Avant, qu'on disait de sous-culture, aujourd'hui, c'est devenu la culture populaire.
Oui, voilà. Alors, d'ailleurs, il y a un terme qu'on emploie aujourd'hui pas mal, c'est la pop culture. Il y a une époque, je pense qu'il y a quelques années pour montrer qu'on faisait partie d'une certaine classe sociale, il fallait connaître les classiques, ce qu'on appelle la culture générale. Et aujourd'hui, finalement, le signe qu'on appartient à une culture un peu ouverte, favorisée à un certain milieu social, c'est justement d'être ouvert à ce qu'on appelle la pop culture, qui est d'ailleurs un peu plus démocratique. Mais on voit effectivement les changements de... Moi, ce que j'entendais tout à l'heure sur les critiques du Masque et la Plume, ça me faisait penser à ce que disait Hannah Arendt, qui philosophe, donc qui tapait sur le divertissement en disant certains veulent nous faire croire que My Fair Lady est aussi divertissant que Hamlet de Shakespeare, et elle dit que ce qui définit un objet culturel, c'est sa durée. Or, Star Wars dure, et finalement on se rend compte que le divertissement peut aussi être culturel. Aujourd'hui, on n'a pas du tout la même vision. C'est vrai que la culture, c'est un peu étendu. La notion de culture, c'est un peu...
Et on le voit, Virginie Petit, même avec des chefs d'État comme Barack Obama, qui est un geek absolu, qui a toujours des références. Hein, quand l'armée américaine lance une nouvelle armure et dit on a fabriqué Iron Man, ça paraît étonnant.
Oui, on a vu quand même beaucoup de choses aussi il y a 2 ans, je crois, autour de Game of Thrones, où des chefs d'État aussi ont cité Game of Thrones. Il y a
Fleur
pas que Pellerin, les chefs d'État.
Pellerin, qui rêve de jouer dedans.
Elle n'est pas chef d'État, mais bon.
Ah bon, je le pensais, pardon.
Non, mais bon.
Le trône éjectable de fer.
Il y a aussi, c'est devenu quelque chose de très partagé, notamment par les scientifiques. Et l'expédition 45 de la NASA, son portrait officiel, ils sont tous en Jedi. C'est des Russes, des Italiens.
Il est dans Génération de Jedi.
C'est génial, quoi. Il y a Scott Kelly, le gars qui est en train de battre le record là, de durée dans l'espace pour un Américain. Hein, pas pour. Mais voilà, ils sont tous en Jedi, ils assument totalement. Bon, voilà. Et parce que les geeks triomphants, c'est aussi la science triomphante et la techno triomphante.
On va en parler dans un instant, Mathieu Montoni.
Non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que l'œuvre, en même temps, a été portée par George Lucas, il en est très fier, et lui a complètement échappé avec Reagan, qui a utilisé Star Wars contre sa volonté, et aussi avec George Bush. C'est-à-dire que les diplômés de Force Leavenworth aux États-Unis s'appellent les Jedi. La personne qui a mené la guerre du Golfe était surnommée Maître Yoda, alors que George Bush, c'est une critique même de la guerre du Golfe dans la prélogie, quoi. Donc,
Jules?
Oui, parce que George Bush, bon, ça paraît très américain, mais Barack Obama, on dirait un nom, genre Boba Fett.
C'est ça. Alors ça, c'est une référence à Star Wars, hein, si vous ne connaissez pas.
C'est un hymne à la diversité dans Star Wars.
Obi-Wan Kenobi, Barack Obama, Boba Fett.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernet.
Les informés de France Info, spécial Star Wars, à propos de la sortie aujourd'hui donc de Génération Jedi sur les traces de George Lucas, le livre donc des seuls journalistes Jedi qu'on peut employer dans le service public, donc Bassiste Schweitzer et Mathieu Modeloni, puisque France Info a un service Jedi, faut le dire en plus. Alors on parlait justement de culture populaire qui a réussi donc Star Wars à faire émerger, et même si vous n'êtes pas au courant, c'est vrai que Star Wars, ça a permis d'inspirer d'autres films, ça a permis des sketchs aussi, et puis ça a permis même des chansons. Alors On les connaît ces chansons, mais ça fait toujours du bien quand même de les réécouter. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais notamment celle-ci.
Sois l'autre dans la noire, sors la plus pure de l'empereur et apporte les couleurs du côté obscur.
Obscur, la force est noire. Noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau soit.
Voilà, Ayam, donc sur l'école du micro d'argent, qui prend position donc pour le côté obscur, et puis une autre un peu plus joyeuse.
Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je.
Et ça, c'était Dionysos. Donc, Baptiste Choiseul, vous vouliez dire à propos d'Ayam?
On a rencontré Akhenaton qui nous a parlé de la jeunesse de cet album, mais dès le début, ils sont inspirés, dès leurs premiers albums, ils sont inspirés de Star Wars et ont parlé de Star Wars parce que, nous racontait Akhenaton, ça a été, ils sont pris des claques comme beaucoup de gens devant la première projection de Star Wars qu'ils ont vue. Et ça a inspiré d'autres gens, hein, pas que des chanteurs, des photographes, des cinéastes, des écrivains qui sont inspirés de Star Wars. C'est assez intéressant.
Mais moi, j'avais quand même une question à vous poser. Il y a eu un petit scandale, alors, pour ceux qui ont suivi, c'est au niveau de l'humour, justement, Star Wars. Il y a une humoriste américaine, Amy Schumer, qui avait mimé, soi-disant pour s'amuser, des scènes de sexe avec les robots R2-D2 et C-3PO. Ça s'est très mal passé. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'humour avec Star Wars?
C'est avec Disney. Disney a racheté Star Wars et Disney n'est pas connu pour son humour.
Et ils font des choses bien. Je ne crois pas qu'ils l'aient attaqué.
Non, ils ne l'ont pas attaqué, mais ils n'ont pas apprécié.
Non, bah, ils ont dit c'est pas bien parce que dans leur image, enfin voilà, ils essayent de jouer aujourd'hui un rôle de diversité. L'héroïne sera une femme, le deuxième héros sera un noir, alors qu'il n'y en avait que deux dans la galaxie quand même, si vous regardez les six films.
Oui, d'abord, deux choses. On peut dire que George Lucas lui-même a un peu perdu son humour quand il a voulu mettre dans la prélogie Jar Jar Binks, qui est un peu la part d'humour ratée. Après, il faut savoir aussi qu'à la sortie du film, certains critiques chrétiens, entre guillemets, trouvaient le couple C-3PO et R2-D2 trop franciscain. Alors ça, ce qui correspond pas du tout à un mouvement religieux, mais San Francisco, voilà. Et bon, voilà,
c'est déjà les chrétiens. Il y a autre chose en ce moment qui est assez hallucinant, c'est le fait qu'il y ait un noir dans les bandes annonces, etc. Il y a une espèce de théorie du complot d'extermination de la race blanche par des noirs, etc., par rapport juste aux bandes annonces de l'épisode 7.
Mais il paraît que R2-D2 est juif, parce qu'on voit la kippa, si vous regardez de près.
Vous, Virginie Petit.
Oui, bah, San Francisco, c'est très bien. Il y a une école des chevaliers du Golden Gate à San Francisco. C'est une école de Jedi. On y apprend à manier le sabre Jedi. Donc, moi, je trouve ça. Effectivement, donc, ils sont franciscains.
C'est vrai, pas de problème. Oui, juste sur la critique des blancs, il faut savoir donc qu'à la sortie du premier volet, George Lucas ou Star Wars avait été accusé d'être raciste puisqu'il n'y avait pas d'acteur noir. Le seul noir, c'était le méchant Dark Vador, doublé par un noir, sauf qu'il y avait déjà un militantisme pour la disparition de la race blanche, puisque les méchants, c'est quand même les clones, les Stormtroopers, qui sont tous blancs, donc c'est quand même déjà une manière d'expliquer... Les Stormtroopers étaient déjà une manière d'expliquer que le mal vient des blancs, hein, donc ça fait longtemps.
Jules, aujourd'hui, ça vous amuserait d'écrire une histoire, une BD humoristique, justement, Star Wars?
Mais je l'utilise tout le temps pour les gags, même quand je faisais vraiment du dessin de presse, je l'utilisais souvent, en fait, il se passe pas une semaine sans que j'ai une blague sur Star Wars. Alors, je pourrais peut-être ensuite les mettre tous dans un album. Ouais. Là, je voulais faire un truc où il y avait Dark Vador comme ça au Brésil en train de boire des caipirinhas en string et c'était Dark Vador de Baïa. Bon, voilà.
C'est très bien.
Mais pourquoi? Parce que, Jules, ça parle à tout le monde finalement, que ça fait partie de la référence culturelle commune, qu'on peut blaguer là-dessus.
Voilà. C'est-à-dire que, effectivement, moi, mon travail, que ce soit Silex and the City ou même La Philo, quand je bosse vraiment, quand les héros sont Wittgenstein ou Gaston Bachelard, malgré tout, j'essaye de parler au plus grand nombre. Que ce soit à la fois une culture exigeante, mais en même temps des références populaires. Et moi, j'ai une vision du populaire qui est assez large, finalement, et qui n'est pas forcément le truc racoleur non plus.
Voilà, je vais commencer avec Michel Drucker, cette émission, donc je pouvais au moins terminer en marque à 1000. C'était déjà ça. Merci beaucoup, voilà, les informés de France Info, spécial Sarrois, ça doit se terminer. Merci beaucoup, donc, en plus, l'orchestre de France Info, qui joue actuellement à mes côtés. Gilles Verliche, La Philo Contre-Attaque, c'est aux éditions Le Passeur, merci d'être passé ce soir.
Merci.
Jules, La Planète des Singes, volume 2, chez Dargo, c'est vendredi prochain. Et Silex and the City, toujours disponible, bien sûr, le tome 6. Merci pour le mammouth. Courrier international, d'ailleurs, cette semaine, chez le petit, donc on y est.
Richesse pour tous, comment finir avec les inégalités.
Voilà, et bah oui, on va savoir également. Et Génération Jedi, le livre aux éditions Radio France sur les traces de George Lucas, Baptiste Schweizer, Mathieu Mandoloni, un très bon livre et en même temps assez touchant aussi. Voilà, on peut vraiment le lire même si on ne connaît pas Star Wars. Merci d'être passés tous ce soir aux informés de France Info.